Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses super intéressantes. Facebook qui réfère le cas de la déplatformisation de Donald Trump à son Oversight Board, ce qui est peut-être un précédent essentiel dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire de la modération des réseaux sociaux. On a aussi quelques préoccupations sur Signal dont j'exprimais il y a quelques temps et qui commencent à se concrétiser dans le monde de la tech. Il y a aussi Twitter qui lance Birdwatch. C'est pas juste pour regarder les oiseaux, mais un petit peu quand même, vous allez voir, c'est assez intéressant, et plein d'autres news. Et pour m'aider à naviguer tout ça, j'ai deux invités absolument formidables. D'une part, Gaëlle, qui se joint à nous tous les mois. Comment ça va, Gaëlle? T'es en forme?
Salut Patrick, eh ben, écoute, toujours ravi d'être là.
Ouais, pleine d'énergie, t'es prête à étriller Facebook pour ses décisions, j'allais dire asinine, pour ses décisions ridicules.
Je suis très 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 remontée là, donc moi je me trompe parce que...
Ah oula, d'accord, d'accord.
Il y a trop de sujets là d'actualité qui m'agacent. Je vais être calme, zen et souriante.
Ok, très bien. Bon bah écoute, j'espère que tu vas réussir, ça a l'air un petit peu effrayant. Mais dans tous les cas, notre deuxième invité c'est Zineb Grida qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Zineb, comment ça va?
Salut Patrick, bah écoute, ça va super bien, il y a du soleil en Belgique, on est content. Oh,
t'as bien de la chance, ici il fait gris et il y a de la neige, hein, donc je t'envie un peu. Zineb, c'est la première fois que tu te joins à nous dans l'émission, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour que les auditeurs sachent un petit peu qui tu es?
Bien sûr, avec grand plaisir, donc bonjour à tous, je m'appelle Zineb, donc je suis marocaine, ingénieure en sécurité informatique de formation. J'ai bossé un peu partout dans le monde, notamment en Afrique du Sud, Brésil, États-Unis, France aussi. Et depuis 5 ans, je suis installée en Belgique, où je suis en fait une experte internationale en sécurité informatique.
Magnifique. Voilà. Écoute, je suis curieux de savoir ce que tu vas nous dire sur les reproches que j'ai à faire à Signal. Même si ce n'est pas directement de la sécurité informatique, il y a les questions de l'implication du chiffrement point à point. Et on va voir, on va en parler, ça va être super intéressant. Ouais. Merci en tout cas de te joindre à nous, Zineb.
À toi pour l'invitation.
Avant de se lancer dans les sujets, je voudrais quand même remercier évidemment les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission par Patreon sur patreon.com/rdvtech. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Leslie, Barbiello, Romain Nissen, Fernando Amat, Dwayne, je ne sais pas exactement comment on prononce ton pseudo ou ton prénom, mais Dwayne, ou alors Dwayne, Guillaume Poulain, Pierre Robin, Rion, pardon, décidément, Linktus, Christopher, Bruno Moget, je répète Pierre Rion, merci beaucoup, et également Léthargique Panda qui est le producteur de l'émission aujourd'hui. On pourrait penser que Léthargique Panda est un panda qui est un petit peu léthargique, hein, c'est dans le nom, mais en même temps, vous savez quoi, il sait qu'il manque peut-être un petit peu d'énergie pour faire les choses qu'il voudrait faire, et donc tout simplement il décide de soutenir l'émission pour qu'on fasse pour lui les choses qui lui semblent importantes. Donc j'espère éduquer les gens aux questions informatiques importantes, aux questions de la tech et aux vrais sujets qui posent des questions essentielles dans notre société. Donc comme Léthargique Panda, ne soyez pas léthargique, soyez actif dans des choses peut-être qui demandent un petit peu moins d'énergie, comme le fait de soutenir le Rendez-vous Tech. C'est super facile, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous de soutenir l'émission que vous appréciez. Alors, je vous ai dit, c'est une série de sujets assez intéressants. Alors, on a déjà parlé d'un certain nombre d'éléments dans la déplatformisation de Donald Trump ces dernières semaines, suite aux problèmes et à l'invasion du Capitole aux États-Unis. Donc, on ne va pas revenir sur tout ça. Si vous voulez des réflexions et des analyses sur l'ensemble de cette problématique, vous pouvez écouter les épisodes précédents. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Facebook a décidé de mettre devant son oversight board, donc son comité de surveillance, je ne sais pas s'il n'y a pas un nom un petit peu plus effrayant pour ce comité de surveillance, genre c'est le comité de surveillance mondial du royaume de l'ombre de Facebook et de Zuckerberg, qui donc est là, a été créé il y a quelques mois, peut-être même un an de ça, pour justement, entre guillemets, légiférer, même si ce n'est pas une administration étatique, hein, c'est un organisme qui est créé par Facebook, mais indépendant, et qui réunit des experts en éthique, en tech, en philosophie, en journalisme, ce genre de choses. Et Facebook a décidé de d'essayer ce moyen pour régler les cas les plus difficiles de modération en disant « on va avoir un board qui est séparé de nous, auquel on peut référer et auquel les personnes impliquées peuvent faire appel pour prendre ces décisions. Et ensuite, nous, on recueille l'avis, on décide si on le suit ou pas. » Dans ce cas précis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont référer le cas de Donald Trump et de la suppression définitive de son compte à ce board qui va devoir, dans les 90 prochains jours, rendre un avis. Est-ce que oui, il faut supprimer le compte pour toujours ou non ? Et Facebook a déjà annoncé que leur avis sera binding, c'est-à-dire qu'il sera contraignant pour Facebook, et c'est pas Mark Zuckerberg qui va ensuite pouvoir dire oui, on veut bien accepter la décision ou non. Donc ça sera vraiment le board en question qui va exprimer son avis de manière, je mets les guillemets pour dire indépendante, puisqu'il est issu, c'est une émanation de Facebook, mais il n'empêche, c'est tout de même un organisme qui est censé être indépendant. Ils ont aussi une deuxième question qu'ils posent à ce board, c'est comment est-ce qu'on doit gérer les problématiques qui peuvent se poser avec des personnalités politiques à l'avenir. Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus complexe et multiple, donc évidemment, ça sera un avis qu'ils vont ensuite suivre ou pas, ça ne sera pas un avis binaire, oui ou non. Mais le plus important, c'est la question de est-ce qu'ils auraient dû supprimer ou est-ce qu'ils doivent supprimer de manière définitive le compte de Donald Trump. Alors, ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est hyper compliqué pour les réseaux sociaux de prendre ce genre de décision. Et on a beaucoup de gens qui disent « vous devriez mieux faire » sans expliquer exactement ce qu'il faut faire pour mieux faire. Et là, je me dis, j'étais relativement positif sur l'idée de l'Oversight Board, et ça, c'est exactement la pire des questions pour laquelle il a été créé. Quelques mois après leur création, et ben, ils ont déjà la pire question possible. Du coup, je vous pose la question à toutes les deux. Peut-être on va commencer avec Gaëlle, qui était remontée, nous disait-elle tout à l'heure. Est-ce que c'est un bon moyen de faire les choses dans ce cas précis, ou est-ce que tu penses que c'est une erreur ?
Alors déjà, je ne fais pas partie du board et je vais déjà préciser que ceci n'est que mon avis et que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la vérité ou quoi que ce soit. Néanmoins, en fait, mon vrai problème avec le sujet, effectivement, c'est qu'on parle d'une plateforme. Donc effectivement, quel est le rôle d'une plateforme et qu'est-ce que ça implique derrière ? Et c'est surtout, en fait, ça crée un
précédent.
Comment on appelle ça ? Un précédent, tout à fait. Et c'est vraiment ça le problème. C'est le précédent que ça va créer. Et de dire qu'une plateforme a le droit de bannir complètement quelqu'un, alors j'ai envie de dire presque ça nous va bien pour certains qu'on bannisse Trump, mais quid du jour où c'est pas quelqu'un de sensé qui est à la tête d'une grosse plateforme et qui prend des décisions et qui finalement décide d'empêcher et de censurer d'autres personnes. Parce que c'est ça l'histoire, hein. On parle quand même de liberté d'expression, on parle de censure, on parle de démocratie, on parle de sujets tellement importants, et c'est une responsabilité tellement forte que je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir. Le board, effectivement, comme tu le disais, c'est la pire des questions qu'on pouvait leur poser. après, moi, juste pour faire un tout petit... Tout, toute petite digression quand même, c'est que pour moi, cette histoire, c'est vraiment la pointe de l'iceberg du problème Facebook. Et ouais. Bannir ou pas le compte de Trump, j'ai envie de dire, mais ça changera pas grand-chose. Parce que la vraie problématique, c'est l'algorithme de Facebook, c'est les bulles informationnelles qui créent toutes ces communautés haineuses, ces communautés violentes. C'est pas Trump en lui-même qui crée tout ça. C'est vraiment les algorithmes derrière qui créent ces bulles informationnelles. Et c'est tout ce concept de la valeur de la vérité qu'il faut absolument remettre sur la table, parce que aujourd'hui, la vérité n'a plus de valeur. La valeur monétaire de la vérité n'existe plus. Et pour Facebook, elle n'existe pas. Parce que la vérité, ça fait pas cliquer, ça n'engage pas, et donc il vaut mieux mettre en place des algorithmes qui vont plutôt aller sur des bulles informationnelles de complotisme, de buzz, de rumeurs, etc. Mais donc alors... voilà, mon problème, il est plus là que sur la problématique de Trump, donc j'ai envie de te dire, c'est vraiment un étendard, et qu'ils le bannissent ou pas, même s'ils le bannissent, au final, j'ai envie de te dire, ils se seront couverts en disant, ah, bah, vous avez vu, on a fait notre job, et s'ils le font pas, bah, ils l'auront pas fait, ça sera pas bien non plus, donc au final, désolé pour eux, mais l'un ou l'autre, ils auront tout faux, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas le vrai problème.
C'est un petit peu... Alors, c'est intéressant parce que tu as réussi à ne pas tout à fait répondre à la question. En même temps, tu dis non, quoi qu'il arrive, ils auront tout faux. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer que, quelle que soit la décision, elle fasse l'unanimité. Mais tu bottes en touche en disant bah, le vrai problème, il est ailleurs. C'est le problème de l'algorithme, c'est sûr. Mais là, c'est pas celui qu'on est en train d'essayer de régler. C'est vraiment la question, est-ce qu'on a le droit de déplatformer une personnalité publique et politique. Et comme tu le disais, je crois que quelle que soit la décision, ça sera...
Pour moi, c'est une décision légale, en fait. Donc, il y a une décision de justice qui dit qu'il a dit des choses qui sont totalement illégales, et dans ces cas-là, on le bannit. Soit ce n'est pas le cas, et dans ces cas-là, on ne peut pas le faire.
En fait, c'est ça, effectivement,
vas-y, Zineb, ouais.
Vas-y.
Pardon, c'est oui ou non, parce que d'un point de vue, en fait, IT, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au début, les réseaux sociaux, ils étaient plus en mode, on va faire les choses différemment de ce qui est fait dans l'IT traditionnel, on est une start-up, on veut donner de la liberté à tout le monde, on va pas suivre, j'ai envie de dire, les codes et l'éthique et les frameworks qui ont été définis. Et puis, en fait, Facebook, plus en grandissant, plus ils se sont rendus compte qu'en fait, quand il y a des lois, des régulations, une manière de faire les choses dans le monde IT, et donc pas informatique, mais vraiment tout ce qui est information system, IT technologies, on se rend compte que il y a des gens qui ont prédit ces problèmes. Parce que pour moi, quand j'ai entendu parler du board, ça m'est venu comme une évidence. Parce que quand on utilise Facebook, les gens ils disent toujours « Oui, on est sous la coupole de Mark Zuckerberg. C'est lui qui décide de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. » Alors que normalement, non. Il a donné une plateforme où il a, j'ai envie de dire, démocratisé la conversation. Il a laissé aux gens ce libre arbitre, cette possibilité de discuter. Mais derrière, il y a quand même des régulations, il y a des lois, et il y a quand même une certaine éthique et une morale. Donc, il y a la morale de l'individu, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que ça va engendrer, versus quelle est la composante corporate, à savoir la plateforme que tu utilises, elle ne doit quand même pas te laisser faire des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui, en même temps, ne le sont pas. Donc, pour moi, l'idée d'avoir un board qui est indépendant, c'est la chose la plus sensée qui a été faite.
Merci Zineb. Déjà, je te trouve super intelligente et super à propos, parce que tu es complètement d'accord avec mon analyse de ce board. Bon, en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Donc oui, très très bien.
En fait, non, moi j'ai essayé d'être factuelle dans le sens où je comprends en fait le rise des réseaux sociaux, dans le sens où on voulait donner une voix à tout le monde et laisser le champ aux gens de s'exprimer ouvertement. Et ça, je suis d'accord. Et ça me rappelle un peu les forums qu'on avait avant, le MIRC, les chatrooms et tout, où il n'y avait pas un modérateur qui te disait « Ah, oh, c'est bon, j'aime pas ton avis, allez hop, basta, tu te dis ou je te bannis. » Mais de l'autre côté, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue IT et d'un point de vue vraiment, j'aime pas le mot corporate, mais plus le droit et les responsabilités d'une société, quand même, c'est une plateforme qui doit régir ce qui est posté dedans, qui doit avoir des politiques de sécurité, des politiques d'utilisation et une certaine gouvernance. Et j'insiste sur le mot gouvernance parce que là, le but de ce board, c'est que, OK, Mark Zuckerberg a créé cette plateforme, OK, il y a des gens qui sont des CEO, mais ce CEO n'est peut-être pas apte à pouvoir décider sur des sujets ou sur des choses comme par exemple cette histoire de Trump, parce qu'il n'a pas le recul ou un peu le détachement qui est nécessaire.
Ah oui, le détachement,
voilà, je comprends. Le détachement et surtout l'expertise qui va permettre de dire est-ce qu'une personne peut utiliser cette plateforme et est-ce qu'il va avoir le recul et l'intelligence de comprendre qu'il y aura des répercussions. Et là, on se rend compte que voilà, le libre arbitre et l'expression, elle a été donnée, mais de l'autre côté, voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées. Et ce board va être important parce qu'il va pouvoir être d'une manière neutre, et j'utilise des grandes guillemets pour dire qu'il va être neutre. Mais moi, ce que je trouve top, c'est que j'espère que ça va faire comprendre aux autres réseaux sociaux que voilà, c'est pas totalement ouvert et que faites attention, vous devez à un moment répondre à une certaine autorité qui est indépendante. Et je pense que ce soit Twitter ou tous les autres réseaux sociaux, ils vont devoir aussi avoir un board séparé qui va devoir statuer sur ce genre de situation.
Ouais.
Parce que
Non, mais je crois effectivement que tu as mis le doigt sur un certain nombre de problématiques qui sont importantes. On a tendance, je crois, à vouloir extrapoler les questions qui sont spécifiques à cette problématique de Trump, dont, comme on en a parlé au cours des semaines précédentes, bien sûr que ça implique aussi les questions de bulles d'information et de violence et de harcèlement sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un point spécifique et assez unique au cours de l'histoire des réseaux sociaux qui posait un danger immédiat avec le président des États-Unis qui incitait à une violence réelle et qui n'était pas théorique, là, qui était en train de se produire sur le moment même. Voilà, exactement. C'était une vraie... il mettait de l'huile sur le feu.
Mais excuse-moi de te couper, mais c'est parce que justement, personne n'a... C'est un peu horrible de dire ça, mais personne en fait n'a spécifié quelles étaient les limites, parce que quand les réseaux sociaux ont été créés, le but était de dire que chacun connaît ses limites et que le but était de connecter les gens partout dans le monde. Donc en fait, ça partait d'une bonne intention, mais il fallait garder en tête qu'il y a d'autres personnes qui allaient détourner ça, et c'est ce qui s'est passé effectivement. Et qu'à ce moment-là, il fallait, dans la création, et là je rejoins Gaël, dans la création de cet algorithme et dans la création de ces plateformes, prévoir quand même des outils, des contrôles, des processus, des programmes qui allaient permettre de détecter ça en amont et de pouvoir réagir à ça, voire déférer ça à tout ce qui est la loi, la justice et autres.
On ne reproche pas de ne pas l'avoir fait dès le début, hein, parce qu'effectivement... pouvoir imaginer les usages, enfin c'est vraiment la différence entre les usages prescrits et les usages réels. Hein. Et les usages qu'on pense à la base quand on crée une technologie, on peut jamais imaginer toutes les possibilités d'usage qui vont être faits, qui vont être détournés, qui vont en dériver. Ouais. Donc ça, honnêtement, on peut pas leur reprocher non plus tout le temps. Mais une fois que ça y est, en revanche, effectivement, avoir un board, c'est déjà une première étape et c'est déjà très positif. Maintenant, faut pas non plus se cacher derrière ça. Et je ne trouve pas ça suffisant. Je pense qu'ils peuvent agir aujourd'hui techniquement sur certains aspects. Ouais. Et je ne suis pas sûre qu'ils
soient prêts.
Ils aillent vraiment dans ce sens-là.
Ils ont envie de le faire. Parce que je pense aussi que la décision du board, excuse-moi d'avoir coupé Patrick, c'était aussi dû au fait que chaque 30 secondes, il y a quand même Mark Zuckerberg qui a été appelé à témoigner. Puis il y a eu d'autres personnes qui ont été appelées à témoigner. Donc en soi, ça sert aussi ses intérêts personnels.
Je dirais que je crois que au-delà de la question de Trump spécifiquement, qui est importante évidemment, et on en parle dans la chatroom, tu utilisais le terme de censure tout à l'heure, Gaël. Moi, je me suis pas élevé, c'est un peu fort, mais j'estime que c'est pas de la censure ou que ça n'est pas forcément de la censure, parce que c'est pas comme si Trump n'avait pas, quand il était encore président, la possibilité de communiquer par ailleurs. Il avait, comme beaucoup l'ont dit, la salle de presse de la Maison-Blanche, juste à côté de l'aile est de la Maison-Blanche. Il pouvait tout à fait le faire facilement. Bon, ensuite, la question de déplateformisation en général se pose. Il y a un point qu'on a peut-être évoqué à moitié, c'est à quel point cet oversight board, qui est une tentative en fait de Facebook, qui comme beaucoup d'autres, essaye de trouver une solution à cette problématique qui n'a pas de solution, un élément qu'on évoquait aussi au cours des semaines précédentes, qui n'a pas de solution de la modération des réseaux sociaux. Personne n'est d'accord pour savoir comment les modérer. Est-ce qu'il faut simplement respecter la loi, mais la loi n'a simplement pas assez de ressources, et ce n'est pas une question de budget, c'est qu'on ne peut pas, ou alors ça serait vraiment une transformation de, du fonctionnement de la loi, on ne peut pas mettre un juge derrière chaque clic de Facebook, c'est simplement impossible. Il y a tout un tas de problématiques et personne n'a la solution. Donc Facebook ici tente cette histoire de board qui est intéressante à voir, à suivre pour voir si ça va donner quelque chose de positif ou pas. Et peut-être que ça pourra être étendu effectivement à différents réseaux sociaux. Peut-être que chacun auront leur board. Peut-être même, pourquoi pas, que sans avoir un juge derrière chaque action de Facebook ou de Twitter, peut-être qu'on pourrait établir un système plus ou moins similaire ou une série de boards, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait faire une centaine de boards officiels en France, un bras de la justice qui serait un petit peu différent, auquel les réseaux sociaux peuvent se référer pour dire, bon, bah là, on sait pas, on a genre, je sais pas, on a le droit de référer 1000 cas par an, alors évidemment, ça sera pas tous les cas de la Terre, mais 1000 cas par an, et il y a des gens dans qui font partie de l'appareil judiciaire français qui pourraient dire, bon, bah là, oui, là, non, et au moins, les choses seraient claires, et il y aurait une décision qui serait une décision officielle. Et évidemment, ça ne réglerait pas tout et tout le monde ne serait pas d'accord, mais peut-être que ça serait une piste à suivre. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, imaginez si le board dit, bon bah non, le président américain, enfin, Donald Trump ne peut pas revenir sur Facebook, il y a plein de monde qui va être mécontent, et s'ils disent qu'il peut revenir sur Facebook, il y a plein de monde qui va être mécontent aussi. Mais on va parler d'un autre système aussi que Twitter est en train de mettre en place pour un autre problème, mais Zineb, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
En fait, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que moi, je suis d'accord avec Gaëlle dans ce qu'elle dit, dans le sens où elle dit Trump, c'est juste en fait le tip of the iceberg. Parce que en fait, Facebook, ça fait des années où ils ont des problèmes avec des NGO et des organisations parce qu'ils ne bannissent pas, par exemple, des choses qui sont liées au trafic d'enfants, au trafic sexuel, à tout ce qui est revenge porn. Donc en fait, eux, il y a déjà en fait une bagarre qui est actuel, qui est juste d'expliquer que voilà, il y a quand même une baseline qu'il faut pas dépasser. Et les gens trouvent que Facebook ne supporte pas déjà des choses qui sont interdites par la loi et qui sont communes partout dans le monde. Ça veut dire tout ce qui est trafic d'êtres humains est quand même commun à tous les pays dans le monde.
Sur ce point, Zineb, quand même, ils font un gros travail sur la pédopornographie et sur le terrorisme. Et sur ces points-là, je pense pas qu'on leur reproche, on leur reproche vraiment de ne pas être actifs, si?
Si, par exemple, les campagnes qui sont pour la protection de tout ce qui est cancer du sein, il y a beaucoup de problèmes parce que Facebook, maintenant, continue d'interdire ce genre de posts. Même chose pour tout ce qui est cancer préventif ou
Tu veux dire à cause des imageries, de l'image qu'on peut voir?
Les abortions, oui, qui sont des images qui sont parfois nécessaires à montrer pour expliquer un peu aux gens l'importance de la prévention. Et même chose pour tout ce qui est les IVG et autres. Donc, c'est sûr qu'on ne va jamais être d'accord, mais il y a quand même une baseline définie que ces plateformes doivent quand même supporter. Et ça,
mais
actuellement,
tu sais,
ce n'est pas le cas.
Zineb, moi, je vais me te pousser un petit peu, je vais push back sur ça, je vais pousser un petit peu dans l'autre sens, parce que tu dis qu'il y a une baseline définie qui est mondiale, universelle sur la planète, et ce n'est pas du tout le cas sur les questions d'avortement, par exemple. Il y a des sujets, alors il est rare d'avoir des pays où l'avortement est totalement illégal, mais la manière dont on considère l'avortement et la définition de l'avortement peut changer en fonction du pays où on est. Quand je dis la définition, je veux dire à quel terme est-ce qu'on peut encore avoir un avortement, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de sujets justement où la définition n'est pas universelle, n'est pas mondiale. Et quand on dit à Facebook qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose, là, on leur demande spécifiquement de se substituer à une décision de justice parce qu'ils n'agissent pas assez vite. Alors que de l'autre côté, on va leur reprocher de se substituer justement au gouvernement en prenant des décisions sans décision de justice. Et ça illustre parfaitement bien, à mon sens, le problème impossible, insoluble dans lequel est Facebook, et l'une des raisons pour lesquelles ils ont créé cet oversight board, qui est que ils sont pris entre des avis différents de plein de gens, et c'est, enfin, franchement, c'est impossible à résoudre. Si on parle de la question, si on parle au-delà de la question de Trump, si on parle d'une question spécifique, on pourra en parler et dire, bon, sur ce point, on va dire que c'est de telle ou telle manière qu'il faut le traiter. Mais ça change à chaque point. Donc, il faudrait en parler à chaque fois individuellement. Et c'est ça qui est impossible, quoi.
Mais en fait, non, parce que toi, ce que tu prends, c'est d'avoir une communication individuelle et laisser le choix à tout le monde de décider sur le sur comment cette plateforme va gérer ça. Il faut garder en tête déjà que ce sont des plateformes qui ont été créées par des Américains pour l'usage des Américains.
Bien
ça
sûr.
A juste été utilisé globalement, mais dans la manière avec laquelle ça a été développé, ça suit des lois américaines. Et donc, il y a certaines lois américaines qui sont contraires à des lois qui sont peut-être en Europe, en Afrique, en Asie du Sud. Donc là, déjà, on a un tout petit problème qu'il faut discuter. J'appelle ça tout petit problème.
Oui.
Bien sûr. Mais non, mais voilà, tu as tout à fait raison.
Parce que sinon, si on rentre dans ce débat, c'est un autre débat.
Mais relativement aux autres problèmes, il est petit.
Ouais, voilà. Mais déjà, en fait, moi, le point que j'aime beaucoup avec, comme je t'ai dit, cette histoire de bord, c'est qu'au moins, il y a une instance qui est en train de statuer et qu'on est en train de retirer cette ouverture, pas ouverture d'esprit, décision qui est donnée au CEO de faire, j'ai oublié l'expression française, de faire la pluie et le beau temps.
Ouais.
Parce qu'à un moment, moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, sur Twitter, c'est que si moi, si par exemple, toi, Patrick, tu me dis quelque chose qui m'énerve, je vais directement dire au CEO de Twitter, oh là là, lui, il est en train de dire ça, allez hop, fais quelque chose. Ça ne doit pas être comme ça. Normalement, ouais. C'est des applications, c'est des logiciels qui doivent quand même, dans leur business requirement, dans leur programmation, avoir des choses qui sont définies. Si par exemple, ils détectent automatiquement des discours qui sont des incitations à la haine, des incitations à des choses, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a une baseline qui est définie. Si ces personnes avaient fait ça, ça nous aurait déjà aidé.
Oui, je suis d'accord sur le principe. Le problème, c'est que dans la pratique, et je vais te donner un exemple, parce qu'on va avancer sur Twitter.
Bien sûr.
Il y a eu récemment, il y a moins d'une semaine, Twitter a décidé d'agir contre des termes qui sont péjoratifs, des termes très précis, les termes de PD et Gwyn, qui sont des termes péjoratifs, évidemment, pour désigner des personnes homosexuelles. Et ils ont décidé donc de supprimer ou de signaler certains tweets qui incluaient ces termes-là. Le problème, c'est que les termes en question ont été réappropriés de la même manière qu'on a en anglais le terme de nigger, par exemple, ou ce genre de choses, ont été réappropriés par des personnes qui font partie de ces communautés et ils les utilisent de manière évidemment très différente. Donc, on a des personnes homosexuelles qui vont utiliser les termes PD et Gwyn comme un petit peu pour les reprendre et les utiliser de manière forte pour, affirmer leur identité. Et donc, ils se sont retrouvés, ils et elles se sont retrouvés pris dans cette série de suppression de tweets et de signalisation, alors que ils l'utilisaient de manière positive pour eux. Mais comment pouvoir, tu vois, si même à ce niveau-là, on ne réussit pas à avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde, comment même pouvoir rentrer dans les questions de on va réussir à appliquer des règles identiques dans tous les pays, alors que d'ailleurs, à mon sens, les réseaux sociaux n'attendraient que ça, d'avoir des règles claires, au moins dans certains pays. Donc, c'est juste un exemple, mais illustre bien.
Mais en fait, ton exemple est ce que j'appelle moi la théorie de Voldemort. C'est comme ça que je l'appelle.
D'accord. Vas-y.
Voilà. La théorie de Voldemort, c'est parce que si tu regardes Harry Potter. Parce que si tu regardes Harry Potter, dès que quelqu'un dit Voldemort, on te dit faut pas le dire, faut pas le dire. Mm-hmm. Il faut faire attention parce qu'il y a certains mots, notamment un que t'as utilisé qui commence par le mot haine. Et en fait, ce sont des mots qu'il faut absolument bannir. Et moi, je suis pour parce que je peux t'ajouter dedans même le mot beurre et beurette. Ce sont des mots qui ont quand même un passé historique / colonial qui sont assez puissants. Même les deux autres mots que tu as utilisés, certes, peut-être ils sont utilisés péjorativement, mais c'est des mots qui ont porté atteinte à des communautés. C'est des mots qui sont assez puissants, qui font du mal. Et peut-être il y a une fraction de ces communautés qui utilisent ces mots pour dire, comme Voldemort, on se réapproprie, on a le droit de le dire. Mais moi, je suis pour le fait que non, ce n'est pas des mots à utiliser. La langue française ou toutes les autres langues ont un milliard d'autres synonymes. Pourquoi tout le monde s'évertue à utiliser ces mots qui ont fait du mal à ces personnes, qui sont traumatisants pour d'autres personnes, qui ont été utilisés déjà au début et créés dans un contexte mauvais, maléfiques, j'ai envie de dire, qui font du mal, et se dire non, tu sais quoi, je vais les utiliser sur Twitter juste parce que voilà, pour montrer que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit ou que j'ai envie de les utiliser.
D'accord.
Moi, pour moi, tu vois, c'est là où la liberté d'expression, je suis d'accord qu'il faut avoir une liberté d'expression, mais il faut garder en tête qu'il y a certains mots qu'il ne faut pas utiliser parce qu'il y a des communautés qui sont sensibles à ça, il y a des communautés qui ne veulent pas voir ça, et même moi, personnellement, j'ai envie de te dire, je suis contente qu'il y ait des gens comme ça qui décident de censurer ou qui explique pourquoi, parce que à un moment il faut expliquer aux gens pourquoi un mot ne doit pas être dit. Par exemple, moi, le mot beurette, je dis aux gens sur Twitter, il faut pas le dire, parce que si vous faites juste une bête recherche sur Google, il y a un passé colonial derrière, il y a quand même, c'est des attaques directes envers des femmes nord-africaines qui sont des femmes accomplies, qui sont des femmes qui ont avancé dans la vie, et ça c'est un mot réducteur, c'est même pire, c'est une catégorie porno. Et donc,
écoute,
en fait,
je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Complètement,
Zineb.
Sauf que.
Moi, je suis d'accord avec le Birdwatch.
D'accord.
Avec eux.
Mais alors, on va parler du Birdwatch dans une seconde. Mais la raison pour laquelle je parle de ce sujet spécifiquement et de la question des termes qui ont été employés, et je comprends la chose et je vais pas les répéter. Mais les gens qui ont dit, qui se sont sentis attaqués, c'était des gens qui font partie de ces, enfin, qui sont des personnes homosexuelles et qui utilisent ces termes-là. Si demain, le N-word, on commence à l'interdire sur Twitter, je peux te garantir que c'est pas les gens qui sont, dans des mouvances suprémacistes blanches qui vont être les plus frustrés. Ça va être des gens qui sont justement, des noirs qui utilisent ces termes. Enfin, bon, je veux pas parler pour eux, mais j'imagine que, surtout aux États-Unis, il y a des gens qui seraient outrés de ne pas pouvoir utiliser ce terme. Et ce que je veux dire, c'est pas pour débattre de la justification ou non,
je sais,
de la chose, c'est que les personnes qui expriment comme toi cette frustration de voir les termes utilisés et qui disent il faudrait pas les utiliser du tout, quel que soit le contexte. On peut tout à fait comprendre la chose, et à la limite, c'est pas à moi de dire si si je suis d'accord ou pas, c'est aux gens qui sont concernés. Mais justement, quand les gens qui sont concernés disent « Ah mais oui, mais moi, je veux l'utiliser, je veux me le réapproprier, je fais partie de cette communauté, donc c'est pas à Twitter de me dire si j'ai le droit ou pas », tu vois, c'est, ça illustre bien l'impossibilité de résoudre le problème pour Twitter et pour Facebook et pour les autres.
Surtout qu'encore une fois, ça crée un précédent, et ça veut dire que cette liste de mots qui sont interdits, c'est quoi ? Parce qu'il y a des communautés, il y a des milliards de communautés différentes, et des communautés, enfin, chacun peut être se sentir attaqué, blessé par certains mots. En fait, qui va justifier de dire c'est ce mot-là est interdit, ce mot-là est permis ? C'est tellement compliqué comme sujet.
Ouais.
Et encore une fois, c'est le contexte, c'est-à-dire effectivement, il y a la différence entre j'utilise un mot pour faire du mal, pour être violent, pour être haineux, ou j'utilise ce mot pour revendiquer qui je suis et de manière positive.
Vas-y, Zineb.
C'est compliqué. Vas-y, Zineb.
Non, en fait, je suis d'accord avec vous deux, mais c'est là où je me dis, en fait, c'est cette limite entre la liberté d'expression et le trolling.
Bien sûr.
Mais oui, si on se met dans la position de Twitter, du coup, on a bien posé les bases du problème, on a bien posé les deux, tu vois, les deux manières de voir l'approche de ces termes. Si on est Twitter, demain, Zineb, on dit, écoute, Zineb, super, t'es à la tête de Twitter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce cas précis de ces termes-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est encore dans une situation où...
Moi, j'ai envie de te dire qu'il faut déjà éduquer les gens au fait qu'un réseau, c'est pas parce que t'es derrière un écran que t'as le droit de juste balancer ce qui te passe par la tête. Et moi, je trouve que ça, c'est ça déjà le problème fondamental des réseaux sociaux.
Ah oui, mais là, t'es en train de dire qu'il faut éduquer la Terre, qu'il faut éduquer le monde à être des gens bien, quoi.
Mais oui, l'éducation numérique, c'est ce qu'il faut.
Voilà, merci Gaël. Voilà, Gaël, fais ton pitch maintenant.
Il faut éduquer les enfants.
Mais c'est vrai, parce que, écoute, on est des adultes, on est des êtres humains. Ok, on a une plateforme. C'est magnifique, je suis en Belgique, toi, tu es en France, Gaël, je suppose qu'elle est en France, et merci à ces plateformes parce que ça nous permet de discuter, de pouvoir parler sans ces barrières physiques et des barrières de location. Mais est-ce que ça me donne le droit de manquer de respect, ou est-ce que ça me donne le droit de commencer à partir en cacahuète en disant des choses ? Non. Et c'est là où moi je trouve où les gens, ils ont abusé de ce pouvoir et cette possibilité de communication, dans le sens où la barrière de respect de l'autre, elle n'est plus là. Et on voit ça dans Twitter, là où il y a des gens qui se permettent de commencer à faire des commentaires sur n'importe quoi. Si tu postes aujourd'hui quelque chose, il y a quelqu'un qui va directement se permettre de t'insulter. Et c'est là où moi je suis d'accord avec le Birdwatch, dans le sens où oui, il faut flaguer, il faut surveiller, parce qu'il y en a certains qui sont partis loin. Il y a quand même des gens qui ont reçu des menaces de mort via Twitter pour un tweet, ou bien il y a des gens maintenant qui se sentent oppressés et opprimés, ils ne peuvent plus donner leur opinion, parce que voilà, bah, tu donnes ton opinion, quelqu'un va faire ton patte numérique et retrouver où est-ce que tu habites et tout le tralala, et ça c'est pas
mais
normal.
Moi, non mais je suis complètement d'accord avec ça, mais encore une fois, ça ne résout pas le problème de la situation de Twitter en tant que société. Quelles décisions ils doivent prendre pour ces termes? On n'a pas tellement avancé, ni avec nos constatations à nous, ni avec, tu vois, les principes sociétaux qu'on énonce, que les gens devraient avoir plus de respect. On est d'accord, mais là, quand Twitter doit décider est-ce qu'il faut accepter l'utilisation de ces termes-là ou non, on n'est pas plus avancé. On ne sait pas dire est-ce que c'est accepté ou non. C'est... Enfin bon, parlons justement un petit peu de Birdwatch, parce que on est... Mais le truc, c'est qu'on sait que c'est des problèmes insolubles. Mais Birdwatch, c'est un test qu'ils sont en train de faire depuis quelques mois et qu'ils lancent en public aux États-Unis, qui est pas tout à fait pour les questions de harcèlement, c'est pour les questions, au départ, de fake news et d'informations fiables ou non. En gros, c'est un outil qui permet, qui est séparé de Twitter, qui permet à n'importe qui d'aller voir un tweet et de commenter et d'attribuer des notes pour dire si le tweet est plus ou moins fiable, si c'est une information qui est juste et vérifiée ou non, en mettant des notes, pas des notes sur 10, hein, mais des notes écrites, rédigées, pour expliquer le contexte. Et du coup, on a toute une série de systèmes qui est à la limite comparable peut-être à celui de Reddit, mais un petit peu plus poussé, où les tweets pourraient être évalués en fonction des signalements et des notes que vont donner les différentes personnes, et même les notes elles-mêmes peuvent être notées, les notes écrites peuvent être notées pour dire si elles sont utile ou non, de manière à ce qu'on ait du contexte. Quand on lit un tweet, on peut avoir immédiatement les notes les mieux notées qui donnent du contexte à ce tweet, de manière à avoir un petit peu plus d'explications sur ce que dit le tweet. Alors évidemment, on peut tout de suite imaginer que ce genre d'outil peut être utilisé de manière détournée pour, au contraire de son intention, faire en sorte que les choses qui sont justes et qui ne sont pas des fake news sont décrites comme des fake news par les gens qui vont contre. Donc on peut tout à fait détourner ce genre d'outils, mais je me demande si c'est pas quand même quelque chose à tester et puis voir si ça fonctionne ou pas. Il sera temps dans 6 mois, 1 an, soit de l'améliorer, soit de l'abandonner si ça fonctionne pas. Mais c'est encore un outil pour les questions de fake news qui peut être intéressant à tester. Qu'est-ce que vous en pensez, Zineb? Tu avais l'air de penser que c'était peut-être une bonne idée. Tu le mettais dans le contexte du harcèlement avec les questions de signalement. Là, on parle plus vraiment de la question des fake news, mais est-ce que tu crois que ça peut marcher ou que c'est voué à être détourné et mal utilisé aussi?
Bah, tu vois, en fait, le truc pour moi, c'est que c'est 50% responsabilité des utilisateurs, 50% responsabilité de la plateforme ou du produit qui est devant nous. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est tous en train de retourner à un système de forum. C'est vraiment, c'est le feeling que j'ai. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire ces signalements, parce que, par exemple, avec la pandémie du corona, on a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de clickbait, beaucoup de faux articles, beaucoup d'informations contradictoires. Et le problème, c'est que voilà, ça a créé des paniques, ça a créé des, ça quand même, c'est un monde virtuel qui impacte le monde réel quand même. Et donc, le Birdwatch, et je trouve qu'il faut déjà faire attention à qui peut faire partie de ce type de bêta testing. Et
A priori, ils accueillent tout le monde. Hein. Tous ceux qui demandent, c'est censé être ouvert à tout. Et ça,
c'est problématique. Ça, on a déjà un problème, parce que réguler, qui es-tu pour réguler? Qui es-tu pour dire que c'est fake ou pas? Tu te bases sur quoi? Tu as comparé ça avec quoi? Est-ce que tu... Par exemple, on va prendre le bête exemple du corona. Il y a un article. Qui es-tu pour dire que c'est une fake news? En fait, c'est tout. Est-ce que tu es un médecin? Est-ce que tu es quelqu'un, un chercheur? Est-ce que tu es quelqu'un qui a lu beaucoup de choses en parallèle et qui a pu faire la comparaison? À un moment, faut faire très attention avec le bêta testing.
Tu sais quoi?
Les bonnes questions ne sont pas posées.
Et tu as tout à fait raison de poser ce genre de problème. Je dirais, j'aime souvent me faire l'avocat du diable, et tu l'as bien compris, je le fais souvent dans l'émission, donc je fais mon petit jingle, l'avocat du diable. Et le petit jingle. Et dans ce cas-là, si on suit ton raisonnement et qu'on dit « Ah ouais, bah, c'est pas à Twitter de décider... » Enfin, il ne faut pas laisser n'importe qui commenter ce genre de choses parce que n'importe qui, ça peut vraiment être n'importe qui et ils ne sont pas légitimes. Bah, du coup, ça veut dire qu'on dit à Twitter « Il faudrait que vous décidiez qui a le droit d'utiliser cet outil ou pas. » Et on tombe dans le problème l'autre excès. Voilà, il vous faut un board de gens qui ont le droit, mais tu vois, c'est impossible d'avoir un board suffisamment grand pour commenter, parce que là, ça peut être utilisé sur tous les tweets. Et moi, la manière dont je le vois, c'est s'ils réussissent à réguler suffisamment bien, ça pourrait donner quelque chose qui serait comparable un petit peu à Wikipédia. Alors évidemment, c'est pas la même chose parce que ça serait sur tous les tweets, mais sur les tweets qui commencent à gagner un petit peu de popularité, on pourrait voir des gens qui sont dans ce genre de démarche, qui sont plus ou moins fiables et qui ont une certaine renommée, qui viennent donner du contexte. Et d'ailleurs, quand le contexte qui est donné et noté mieux par les utilisateurs, et ben ces personnes-là vont avoir plus de légitimité et vont apparaître plus haut dans les notations. Et évidemment que ça peut être détourné. Évidemment que ça va
popularité.
Bah un petit peu.
Mais c'est pas évidemment ça peut être détourné. C'est évidemment ça va être détourné.
Oui, je croyais que c'était. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a évidemment des gens qui vont pas croire à ce genre de choses. Il y a bien sûr des cas où on va pouvoir montrer, ah mais regarde ce tweet, il y a n'importe quoi qui a été dit, et le premier commentaire sur le tweet, c'est encore plus n'importe quoi. Mais c'est déjà ce qui est en train de se passer sur Twitter. Et je pense qu'il peut y avoir aussi, si on voit en France, par exemple, il y a des organisations comme Check News. Enfin, maintenant, un petit peu toutes les rédactions ont des cellules qui sont dédiées à la vérification d'informations. Eh ben, si on a dans le accessible facilement à côté d'un tweet un contexte qui est donné par ce genre d'organisme qu'on connaît et auquel on fait confiance, eh ben, il y aura au moins une partie des gens qui vont un peu mieux comprendre le contexte du tweet. Pas tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah ben non, c'est n'importe quoi, c'est les Illuminati, c'est les lézards, c'est la 5G dans les vaccins. » Ok. Mais il y aura aussi une partie des gens qui pourra être informée et qui va voir un truc auquel ils font confiance et qui va se dire « Bon ben là, ok, je comprends mieux ce que ça veut dire et je fais plus ou moins confiance à cette... à ce tweet. »
C'est ce qu'ils font déjà un petit peu hein, quand il y a les sites allemands et quand ils mettent leur label sur. Enfin, c'est ce qu'ils font déjà.
Mais fait, là, ça serait crowdsourcé en quelque sorte. Ouais, Zineb.
Mais il y a un problème fondamental parce que là, toi, on dirait que tu es l'avocat du diable dans le sens où tu penses que c'est normal que Twitter devienne la source d'information. Moi, déjà, j'ai un problème avec ça parce que le produit qui est vendu par Twitter, c'est juste un moyen de communiquer. Tu peux écrire aléatoirement ce que tu veux. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. Bah, je tweete, j'ai mangé une pomme. Pourquoi on est en train de demander à un produit qui était là juste pour juste blablater aléatoirement de devenir un référent, une source d'information? Techniquement, il faut éduquer les gens dans le sens où il faut se dire, si tu as besoin d'une information, va au moins chez un journaliste, va dans les journaux là où déjà on fait des recherches appuyées, il y a les sources qui sont là. Là, on est en train de demander à une personne lambda qui est peut-être assise dans un café, qui a tweeté en disant « Aujourd'hui, le corona a disparu », tu es en train de responsabiliser cette personne et de le rendre accountable d'une information que lui-même, peut-être qu'il était juste assis, il l'a posté comme ça. Et c'est là où moi, je trouve que l'éducation numérique que Gaël défend et que elle est nécessaire. À un moment, il faut refaire l'éducation des gens dans le sens où, faites attention, c'est un réseau social. Le but est de communiquer, le but est de discuter de sujets communs. OK, on est d'accord sur des choses. Il y a des lois qui régulent ces réseaux sociaux, il y a des lois qui existent par rapport à ça. Il y a toujours des lois qui sont en cours d'écriture, mais c'est en aucun cas, ça ne doit être en aucun cas une source d'information fiable pour une personne lambda. C'est surtout ça,
écoute, mais le problème, c'est que, tu sais, bon, d'une part, pour la question de l'éducation, j'irais même jusqu'à dire que moi, c'est un petit peu ma mission aussi d'éduquer les gens à la tech et de leur donner les outils pour comprendre ce genre de choses. Donc, je suis complètement dans cette démarche. Et je dirais même qu'il faudrait, comme je le dis parfois, que le Rendez-vous Tech soit une émission obligatoire à l'écoute dans tout le pays, même dans tous les pays. Il faudrait que tout le monde écoute. Et si vous pouvez soutenir sur Patreon, ça serait cool aussi. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de dire « Ah oui, mais il faudrait que Twitter n'est pas censé être une source d'information. » D'une part, je ne suis pas convaincu de ça, parce qu'il y a des sources d'information tout à fait fiables sur Twitter aussi. Il y a des journaux réputés qui sont sur Twitter. Et d'autre part, ça ne sert pas à grand-chose de dire « Il faudrait que Twitter ne soit pas considéré comme ça. » On a la situation qu'on a aujourd'hui et elle est réelle et on ne va pas juste supprimer Twitter. C'est comme se dire oui bah j'aimerais bien que non bien sûr, mais je veux dire
avec
tant que Twitter
il faut faire
mais
gaffe à ce
c'est de remettre à sa place ce que fait chacun
le contexte.
Ce que dit Zineb est très très juste, c'est de dire un réseau social est un réseau social et même des gens comme des il y a des médias qui sont sur ce réseau social et qui sont là pour dire
du marketing.
Oui, pour donner aussi des informations supplémentaires ou engager avec leurs clients.
En bonnet, ouais.
Mais effectivement, ça ne doit pas être la source d'informations. En revanche, là où tu as raison, Patrick, c'est de dire malheureusement, c'est un fait, c'est devenu la source d'informations de
vos jeunes. Non, mais c'est une source d'informations et c'est une réalité qu'on peut pas. C'est comme dire, moi, j'aimerais bien qu'il fasse beau en Finlande 6 mois par an. Bah oui, j'aimerais bien. Tu vois que à dehors de ma fenêtre, il y ait du soleil 6 mois par an. J'aimerais bien, mais c'est juste pas comme ça. Et donc à partir de là, quand on constate une, alors si on veut se mettre à changer les fondamentaux de la société et que les gens comprennent mieux comment utiliser et comment comprendre les réseaux sociaux, je suis d'accord. Mais on n'est pas. Enfin, ça, c'est un travail de plus longue haleine. En attendant, on a quand même des problématiques concrètes auxquelles on est confronté concrètement qu'il faut résoudre. On ne peut pas juste espérer que les gens se mettent à mieux les utiliser du jour au lendemain. Donc...
Mais c'est pour ça que pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est pour ça que je te dis aussi, c'est 50% de responsabilité chez l'utilisateur, 50% de responsabilité chez la société. Parce que si tu vois à un moment que ton produit est détourné ou qu'il a été utilisé d'une manière X, Y et Z, c'est à toi de revoir les requirements, c'est à toi de revoir...
Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec un truc comme Birdwatch. C'est ce que fait Facebook avec un oversight board.
Excuse-moi.
Ils essayent. Non.
Oui et non, parce que pour le Birdwatch, Facebook a ce qu'on appelle le content moderation. Le content moderation, ça reste quand même un être humain qui est en train de décider si oui ou non le contenu est violent ou pas. Il y a eu plusieurs cas où il y a eu des vidéos de meurtre, des vidéos de suicide qui sont restées sur la toile pendant longtemps parce que le content moderator et Facebook en soi a dit que non, c'était pas assez violent ou bien ça faisait pas un breach des policies. Et c'est là où il faut faire attention dans le sens où, ok, 50% utilisateurs, 50% la société, mais au milieu, il y a quand même des lois, il y a quand même une juridiction qui est indépendante, qui statue et une baseline de choses qui ne doivent pas être acceptées. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans les sociétés. Pardon, je finis mon point. Dans une société, dans les sociétés IT ou toute société qui n'est pas, qui est dans différentes industries, il est tout à fait normal d'avoir un board qui est complètement séparé. Et dans ce board, on donne les décisions qui sont soit des décisions sur le budget, soit des décisions sur est-ce qu'il y a des acquisitions à faire ou pas, qui sont complètement indépendantes de la société en soi. C'est quelque chose qu'on utilise, nous. C'est un modèle de gouvernance qui est assez commun dans les sociétés IT et des sociétés technologiques. Et pour moi, le voir dans les réseaux sociaux, c'était la suite logique des choses. Et je me suis même dit, mais pourquoi ça n'avait pas été fait avant ? Parce qu'on est dans le monde numérique. Et dans le monde numérique, ça doit être régi par une instance indépendante et une instance légale. Et pas par un mec qui va décider. Parce qu'on a eu ça aussi avec MySpace. Et
Zineb,
supprimer son MySpace.
Mais Zineb, c'est bien beau. Je suis d'accord dans la théorie. Mais comment veux-tu, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment veux-tu mettre quelqu'un derrière chaque décision de modération de Facebook ? Comment veux-tu mettre un juge derrière chaque décision de modération de Facebook ? On est en train de s'écarter de la question de Birdwatch, mais c'est pas possible.
C'est pas un juge. En fait, si, c'est possible, parce que c'est là où le rôle des politiques de sécurité, les politiques de sécurité, tout ce qui est des procédures, sont déjà définis. Là, on est en train de dire à Facebook, faites attention, faites une révision de votre baseline, de ce qui est quelque chose d'acceptable et d'inacceptable et qui est commun partout dans le monde. Et ça, excuse-moi, c'est des choses qui peuvent être faites. Quand on parle d'incitation à la haine ou autre...
Excuse-moi, Zineb. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est pas vrai qu'il y a ce genre de sujets qui sont communs partout dans le monde. On a des sujets qui sont absolument tabous en France ou en Allemagne, par exemple, qui sont... dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire, que l'on peut dire aux États-Unis quand on parle de d'incitation à la haine, il y a certaines choses qu'on peut dire chez nous, qu'on ne peut pas dire chez nous, qu'on peut dire aux États-Unis. Et inversement, ouais. Aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus puritains sur la nudité, il y a des choses qu'on peut montrer chez nous et des choses qu'on ne peut pas montrer là-bas. Et c'est pas des choses anecdotiques, parce que comme tu le disais, ça peut toucher à des sujets importants comme la question de la prévention du cancer du sein ou ce genre de choses, ou même des questions d'art ou ce genre de choses. Donc oui, il y a des choses qui sont universelles, et quand c'est le cas, on parle de terrorisme et de pédophilie généralement, bah généralement c'est relativement bien géré, mais à côté de ça, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, qui sont qui nous outrent ici et qui sont acceptables là-bas, et inversement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et la solution est là, mais en fait, toi, quand tu le présentes, j'ai l'impression que tu le présentes comme étant impossible à régler. Moi, j'ai envie de te dire, d'un point de vue technique, IT, d'un point de vue de développeur, bien sûr que si. Tu peux mettre juste des filtrages sur la localisation et puis dire, par exemple, pour ce pays ou cette localisation, voilà tout ce qui est à bannir parce que c'est lié à cette géolocalisation. Et ça, c'est faisable parce que chaque pays a développé quand même des lois qui sont liées aux réseaux sociaux. Il y a chaque pays qui a des lois numériques et il est tout à fait possible de adapter le produit à ça. Facebook a le choix soit d'adapter selon la géolocalisation, et je pense qu'ils ont déjà commencé à faire, ou bien chaque pays peut décider de faire ça. Par exemple, au Moyen-Orient, il y a une alternative à Facebook. Au Maroc, il y a d'autres alternatives à Facebook, la Chine aussi, et qui ont fait ça par rapport à, comme tu dis, la sensibilité de la communauté, de la société et du pays à certains sujets versus d'autres. Et ça, je suis aligné avec
alors...
toi.
Eh ben écoute, dans ce cas, je vais te donner un autre exemple. On est en train de partir sur des questions théoriques sur les réseaux sociaux, mais c'est intéressant. Je vais te donner un autre exemple.
Pratique
tu te souviens
aussi,
peut-être tu te souviens peut-être de la loi Avia qui en France avait été proposée il y a quelques mois de ça, qui imposait aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter de supprimer les contenus, j'ouvre les guillemets parce que c'était le terme qui était utilisé dans la loi, les contenus manifestement illégaux. Donc ça les mettait dans l'obligation de supprimer ces contenus manifestement illégaux, ce qui est en quelque sorte ce que toi tu proposes maintenant, c'est-à-dire de voir quels contenus sont manifestement illégaux en France, on parle de la France dans ce cas précis, et d'imposer à Facebook de les supprimer très rapidement. Et cette loi a été retoquée par le Conseil constitutionnel et vivement critiquée par les défenseurs des libertés parce que justement, elle les mettait en position de décider, de prendre des décisions qui auraient dû, selon eux, être réservées aux instances juridiques. Et donc, la loi qui avait été proposée, qui a été devant le Parlement, a été rejetée pour cette raison. Donc, cette solution que tu proposes, qui est d'imposer aux réseaux sociaux de... supprimer les contenus illégaux de manière plus efficace qu'ils ne le font aujourd'hui, a été rejeté par les gouvernements et par l'opinion publique, on va dire. Moi, je trouvais que c'était peut-être quelque chose d'intéressant à tester, mais clairement, bon, on se réfère au Conseil national du numérique qui a dit que c'est... ou la CNIL, je ne sais plus, ou au Conseil constitutionnel qui a dit non, ça ne passe pas. Et donc... tu vois, c'est exactement ce que tu proposais, en tout cas, j'ai l'impression, et ça a été rejeté par les gouvernements. Donc, c'est pas Facebook qui a décidé de ne pas le faire, encore que peut-être qu'ils n'auraient pas été contents d'avoir à le faire. Mais... enfin bon, écoute.
Mais encore une fois, il y a une différence entre la technique. La technique ne peut pas tout résoudre parce qu'il y a du contexte. Ouais. Encore une fois, si on reprend la discussion du départ avec ne serait-ce qu'un mot, un mot, selon son contexte, peut être...
Il change.
Aujourd'hui, il me semble que les intelligences artificielles ne sont pas suffisamment poussées, en tout cas, pour y comprendre vraiment tout le contexte. Donc déjà, ça, c'est ultra compliqué. Et après, il y a deux sujets. Il y a le sujet entre ce qui est légal ou illégal. Et ça, effectivement, c'est plus facile à gérer parce que si c'est haineux, si ça pose problème, des problèmes légaux, dans ces cas-là, la décision est assez vite prise et comme le disait Patrick, c'est à peu près bien géré. Il y a forcément des choses qui passent, mais globalement, c'est bien géré. La problématique, elle se situe surtout justement là où les gens ne sont pas d'accord. Et c'est d'ailleurs généralement ces postes-là qui
bah, bien sûr, oui.
beaucoup de c'est ça. C'est là où on est justement sur cette espèce de ligne entre les deux, où il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer. C'est là où ça se chamaille, pour dire ça gentiment. Mais et c'est là où ça pose problème. Alors après, moi j'aimais bien ton idée de dire quand ça a une certaine volumétrie et que ça prend de l'ampleur, c'est peut-être là où effectivement peut-être qu'on devrait mettre un seuil pour dire attention, là il faut vraiment regarder ce poste-là de plus près parce que ça prend de l'ampleur, et dans ces cas-là mettre des experts dessus pour dire voilà ce que disent les experts, et effectivement un peu à la Wikipédia, qu'il y ait des utilisateurs ou des, tu sais, sur Wikipédia quand c'est vraiment loqué, il y a le petit cadenas, on sait que c'est une information qui vient institutionnel ou d'un expert ou d'un, et ça pourrait être effectivement des comptes loqués qui ont le droit de faire des commentaires ou des avis beaucoup plus légitimes entre guillemets, quoi.
Bon, je crois qu'on aura malheureusement pas résolu le problème. On n'a pas résolu le problème. Je vais lire un commentaire. C'est sûr.
On peut créer un nouveau réseau social, sinon je vous propose.
Oui, je suis pas sûr. Écoutez, je vais arriver à un sujet qui est connexe, mais avant ça, je veux lire le commentaire de Sunims dans la chatroom qui nous dit qu'il existe un mème qui fait référence au problème dont on parlait sur les réseaux sociaux. Il dit l'internet a fait à nos parents ce que nos parents pensaient que les jeux vidéo nous feraient, et je trouve ça tout à fait juste. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces histoires de complotisme et de... Bon. Le dernier sujet que je voulais évoquer dans nos sujets principaux, mais on a passé beaucoup de temps, c'était super passionnant, mais je vais quand même évoquer celui-là, c'est la question de Signal. Signal est l'un des outils de communication privée qui est les plus populaires, surtout depuis qu'il y a eu des soucis avec différents autres outils. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Signal, Telegram et tous ces outils vantent leur utilisation en, avec un chiffrement point à point complet, un end-to-end encryption qui est vraiment impossible à casser par les autorités ou par qui que ce soit. Donc quand vous envoyez un message, vous recevez le message, enfin votre destinataire reçoit le message et seul lui pourra le lire. Le fait de les hacker n'est, alors, selon le système, pas possible. Et il y a de plus en plus de préoccupations qui commencent à se faire jour par rapport à ces outils qui, il y a encore quelques mois, ou je dirais un an, je dis point à point, mais on me signale dans la chatroom qu'effectivement, c'est bout en bout. Mais donc, ces outils sont défendus, et on les a défendus même dans cette émission à de nombreuses reprises, en disant que le chiffrement était extrêmement important pour éviter la surveillance de masse, et que à chaque fois que les autorités demandaient une backdoor, un accès privilégié à ces réseaux et pouvaient casser le chiffrement, la réponse qu'on leur donnait était si vous avez un accès privilégié, ça veut dire que cet accès privilégié est inclus dans le système et que donc forcément à un moment quelqu'un d'autre pourra avoir accès à cet outil également, et ça s'est vérifié à de nombreuses reprises. Le problème, c'est que on parle de Signal parce que Signal est vraiment l'outil qui a philosophiquement mis le chiffrement le plus en avant. Ils sont en open source, ils sont une association à but non lucratif, financée d'ailleurs par l'un des anciens fondateurs de WhatsApp, ce qui est assez rigolo. Et voilà. Et donc, le problème, c'est que maintenant que de plus en plus de réseaux sociaux commencent à être... à mettre dehors des gens dont le discours est inacceptable, il n'est pas du tout impossible que ces gens-là se rabattent sur Signal. Et d'ailleurs, certains employés de Signal ont commencé à dire que ça devait être quelque chose qui devrait être pris en compte par le développement, parce que si jamais ils commencent à communiquer, à avoir des groupes, il peut y avoir des groupes jusqu'à 1000 personnes, je crois, ou plusieurs centaines de personnes sur Signal, et ils continuent à ajouter des fonctionnalités qui les rapprochent d'outils comme WhatsApp ou même comme des réseaux sociaux, et ben si ces groupes commencent à se rapatrier sur Signal, eh ben là, on n'aura plus aucun moyen de surveiller ce qui s'y dit, de surveiller ce qui s'y passe. Et ce chiffrement bout en bout qu'on vantait, même dans cette émission, il y a encore quelques mois, peut commencer à poser des problèmes parce que ça devient une sorte de Twitter complet. Alors, c'est pas un réseau social, hein, c'est vraiment des discussions de groupe, mais ça devient des groupes complètement fermés dont le chiffrement rend impossible la surveillance, complètement impossible. Et du coup, on commence à se poser des questions sur le chiffrement bout en bout. Et à mon avis, c'est des questions qui se posent de manière tout à fait légitime. Et je suis curieux, du coup, toi qui es très technicienne, Zineb, qui, j'imagine, comme nous, enfin, tu connais en tout cas ces sujets, ouais. Et avec ton travail sur la sécurité, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle préoccupation qui, enfin, je dis nouvelle, mais plein de gens en parlaient peut-être depuis longtemps, mais ouais. Là, on la regarde sous un nouveau jour. Qu'est-ce que tu penses de cette préoccupation? Est-ce qu'on panique là, ou est-ce que c'est vraiment une chose en fait, sur laquelle il faut faire attention?
Pour être honnête avec toi, moi, depuis qu'il y a eu le boom de l'information de WhatsApp, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de personnes, des amis du Maroc, en France, qui m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'était un effet de masse, dans le sens où le chiffrement end-to-end a été offert aussi par WhatsApp. La seule différence qu'il y a entre Signal et WhatsApp, c'est que Signal, il est en train d'enregistrer les informations au niveau de l'appareil, et que WhatsApp le store dans le cloud. Ça, c'est un. Et de deux, il faut aussi faire attention lorsqu'on installe une application dans son téléphone aux default settings. Et ça, c'est quelque chose, j'essaie de toujours le dire aux gens, c'est quand vous installez une application, directement aller dans les paramètres et checker qu'est-ce qui est coché par défaut. Parce que malheureusement, quand on est en train de développer une application, par défaut, on dit qu'il faut collecter toutes les informations, que ce soit géolocalisation, des appels, des SMS, blablabla et tout. Et il y a des choses qui ne sont pas obligatoirement nécessaires. Donc moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est aller aux paramètres déjà, désactiver tout ce qui est par défaut. Et après, tu peux toujours checker. Si vous êtes en train d'utiliser WhatsApp juste pour des conversations lambda et que vraiment, honnêtement, moi, j'ai ressenti ça comme étant juste un effet de masse. Personnellement, j'ai encore WhatsApp. Parce que je me suis dit, si j'ai Instagram, si j'ai Facebook, je suis juste en train d'être une hypocrite. Parce que j'enlève WhatsApp et j'ai Instagram et Facebook. Bah, c'est un moment, je me suis dit, attends, toi-même, tu es en train de te foutre de ta gueule. Et j'ai installé Signal parce que j'ai des amis qui sont très sensibles à ça, qui m'ont dit, non, installe Signal. OK, pas de souci, je mets Signal. Mais après, tout ce qui m'intéresse, c'est, attends, est-ce que Signal est en train de stocker mes données ou pas? Les données sont stockées dans mon téléphone. Mais si demain, mon téléphone est volé, la personne a quand même accès à mes données. Bah,
disons que là, oui, si on parle de manière très ciblée, c'est sûr, mais le problème de WhatsApp, c'est qu'ils appartiennent à Facebook et qu'ils peuvent utiliser les données. Les messages sont chiffrés de bout en bout, mais les métadonnées, elles, ne le sont pas et peuvent être utilisées, en théorie, il y a toute cette problématique qui est en train de se poser, peuvent être utilisées également par Facebook. Mais là, c'est un autre problème dont on parle. C'est la question du chiffrement et de la force du chiffrement qui fait en sorte que les utilisateurs peuvent dire absolument ce qu'ils veulent sur ces outils, et en particulier sur Signal, qui, comme on le disait, est prévu pour et est une association à but non lucratif, qui peut offrir un havre de paix ou de chaos à des extrémistes, des terroristes, ou même pas des terroristes, à des suprémacistes de tous bords, ou des suprémacistes blancs ou d'autres. Et maintenant qu'ils ne sont plus les bienvenus sur les plateformes où on peut les voir, est-ce qu'on ne doit pas craindre que Signal ne devienne leur refuge? C'est ça la grande question.
Comme tu le disais, Signal n'est pas un réseau social, donc ils ne peuvent pas aller chercher plein de monde, il faut qu'ils se connaissent déjà entre eux pour pouvoir créer un groupe. Donc c'est très différent d'un réseau social. Après, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des
techniques? Excuse-moi, je précise, sur Signal, ils ont récemment ajouté une fonctionnalité qui te permet de partager avec un lien un lien vers une chatroom.
Je l'avais pas vu, celle-là,
pardon. Et donc tu peux diffuser ce lien sur les réseaux sociaux et puis ensuite récupérer les gens comme ça.
Il n'y a pas une limite de
certainement
une limite de 8 personnes, je crois. Plus de 10 personnes, si je me rappelle bien.
Dans les chatrooms, je crois qu'il y a plus de monde, peut-être pas sur Signal, mais c'est vrai qu'il y a des moyens de mitiger ce genre de choses. Il y a WhatsApp, c'est pas tout à fait la même chose, mais WhatsApp en Inde, par exemple, a limité le nombre de fois qu'un message pouvait être forwardé, qu'un message pouvait être transmis, message ou une news ou un article, de manière à ce que les fake news ne se diffusent pas trop. Ils ont vu que ça marchait un petit peu pour...
Surtout la chaîne, hein. Ça, mais... je sais pas si toi, t'as eu la chaîne, mais moi, c'est les chaînes partagées vers 20 personnes, je supporte plus à un moment.
C'est un classique, ça.
Pour moi, il faut Gaël, dissocier deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui, effectivement, cette espèce de mouvement moutonnier de tout le monde qui quitte WhatsApp. Ils ne savent même pas pourquoi ils quittent WhatsApp pour aller pour Signal, parce qu'ils pensent que leur conversation sur WhatsApp est tellement importante avec tout ce qu'on se raconte de ces groupes extraordinaires. Enfin, moi, la première, hein, sur WhatsApp. Venez voir mes conversations, piquez-les.
Non, mais WhatsApp est chiffré. On parle.
Un sujet, je le fais volontairement.
On parle vraiment des métadonnées pour WhatsApp.
C'est surtout que les gens en général qui sont les plus remontés sur ce sujet-là sont ceux qui publient le plus de choses sur Facebook ou Instagram.
C'est pas faux.
Ça fait raison, Sinem, de dire que c'est effectivement, ne soyons pas hypocrites. Après, il y a un problème qui est un autre problème que tu évoques, Patrick, qui est le problème du terrorisme. Ma question là-dessus, c'est est-ce qu'ils n'avaient pas déjà des outils auparavant ? Et finalement, ce mouvement de masse vers Signal concerne plutôt les personnes lambda et pas forcément les personnes qui avaient déjà des outils.
Je suis sûr qu'ils utilisaient déjà Signal. En fait, c'est pas ça le problème. Et les terroristes qui utilisaient déjà ce genre d'outils, on sait qu'on a des moyens d'infiltrer ces réseaux par un travail de police classique qui est, disons, le travail que font la CIA ou le FBI.
Non,
mais là où ça pose... Non, bon, disons que mettons de côté la question des terroristes, parce que la question se pose depuis déjà des années. Là où il y a une nouvelle question qui se pose, c'est la question de, maintenant que les groupes comme les suprémacistes blancs ou les soutiens de Trump les plus violents ne sont plus les bienvenus sur Twitter et Facebook, et que des outils comme Gab et MeWe et Parler ne semblent pas vraiment super bien fonctionner, est-ce qu'ils ne vont pas du coup utiliser Signal, et ça étend l'usage, on va dire, négatif de Signal? Et est-ce que surtout, comme le disent les employés de Signal, et c'est un truc que tu disais, Zineb, tout à l'heure à propos de Facebook et Twitter, est-ce qu'il ne faut pas penser à ces problèmes avant et pendant qu'on est en train de construire l'outil, de manière à ce que, si ce genre de problème se pose, on soit prêt à réagir et peut-être ne pas implémenter des fonctionnalités qui faciliteront qui faciliteront les usages de ce type? Est-ce qu'il ne faut pas y penser avant? C'est une chose qu'on a beaucoup dit sur Facebook, Twitter et d'autres, et que Signal semble être en train de répéter. Ceci dit, je mentionne tout de même que Marlin Spike, qui est le président de Signal, a évoqué la chose en disant « Écoutez, si le problème se pose, on gérera la chose une fois qu'il sera posé. C'est pas la peine d'anticiper, parce que si on anticipe, on fait plus rien. » Et je comprends l'idée, mais c'est exactement ce qu'on a reproché à Twitter et Facebook et les autres, de ne pas avoir anticipé. Donc, pour moi, la question se pose, quoi.
Mais pourquoi tu dis « je comprends l'idée » Excuse-moi, Gaël, de t'avoir coupé. Mais je voudrais bien savoir, Patrick, ce que tu veux dire par « je comprends l'idée ».
Pardon, j'ai trop parlé. Je comprends l'idée de quelle idée?
De Moxie. Quand tu dis tu comprends l'idée,
l'idée que
juste de savoir ton point de vue par rapport à ça.
L'idée que je comprends le raisonnement qui dit il faut attendre d'avoir un problème qui se pose avant d'essayer de le résoudre, parce que si on essaye de résoudre tous les problèmes potentiels, on se met à alourdir tellement un développement qu'on va l'arrêter en quelque sorte, peut-être pas l'arrêter, mais.
Ok.
Non, je sais pas, peut-être que t'es pas d'accord, mais les problèmes potentiels, nous, on parle de ceux qu'on a déjà vus, mais peut-être qu'il y en aurait d'autres aussi qu'il faudrait... à vrai dire, j'y réfléchis en disant, et c'est vrai que ceux qu'on a déjà vus se poser chez Facebook et Twitter, c'est des problèmes qui sont réels et qu'on a vus sur WhatsApp également, c'est des problèmes dont on sait qu'ils arrivent, et peut-être qu'effectivement, il faut y réfléchir avant qu'ils ne se posent à ceux-là en particulier, mais... Okay. J'ai me suis fait, j'ai l'impression de m'être fait attraper avec la main dans un pot de confiture, tu sais. Je dis, non, en fait,
Marlene
Spike, ouais, non, mais c'est ça.
Je voulais vraiment comprendre est-ce que vraiment il était d'accord avec lui ou pas. Et pardon, Gaëlle, tu voulais dire quelque chose, je te laisse finir.
Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, la limite, j'ai trouvé l'information, la limite, elle est de 1000 personnes dans un groupe pour signer dans une chatroom. Effectivement, je pense que c'est déjà peut-être réduire ce nombre éviterait effectivement d'avoir des gros groupes qui après vont déferler sur le Capitole et qui puissent se réunir, tu vois, c'est peut-être
vous savez quoi. Vas-y Zineb, et je vais conclure avec le truc qui va briser toutes nos discussions à la fin. Vas-y, je te laisse finir et puis...
Ok. Mais en fait, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand j'avais lu l'article justement par rapport à Signal et que j'ai vu un peu le retour des gens, je t'avoue, je l'ai installé, je ne l'ai même pas checké. Allez, je vais prendre ma casquette d'experte en sécurité, ma modeste casquette, je ne suis pas un monsieur robot ni vraiment un expert. Mais avec ma modeste expérience, en fait, quand on est en train de créer un produit, parce que ça reste quand même que ce soit un logiciel, une application, un site web, on est en train de parler d'un produit avec une interface, avec des utilisateurs. La sécurité est quelque chose qui se définit en amont. C'est des choses qui se définissent dans la stratégie. C'est quelque chose qui est discuté quand tu es en train de réfléchir à quel est le produit, qu'est-ce que tu veux faire. Au niveau de Signal, il faut garder en tête quelque chose de très important. OK, c'est non lucratif actuellement, mais ils sont quand même en train d'avoir une hausse de plus de 300% d'utilisateurs. Ils sont en fait... ils ont beaucoup de gens qui sont en train de se connecter, ils ont beaucoup de nouveaux utilisateurs et ça veut dire que pour eux, ils sont en train d'être la cible de potentiels investisseurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire les choses gratuitement, mais après, le business model va changer. Et peut-être qu'ils sont en train de virer vers du Facebook, mais qu'ils vont apprendre des erreurs de Facebook et des erreurs de Twitter en s'assurant de garder déjà une bonne communication. Parce que le problème de WhatsApp, c'est que la manière avec laquelle la policy a été faite, c'était d'une manière Big Bang. Il faut garder en tête que du jour au lendemain, il y a eu un message qui s'est affiché qui dit « soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas ». Et donc les gens, ils ont pris ça comme étant un ultimatum et même pas une liberté d'utilisation de leur de WhatsApp ou de leur information. Et qu'encore une fois, le méchant Facebook a pris le contrôle de leur téléphone et qu'il les a forcés à faire ça. Et c'est pour ça qu'ils ont tous viré vers le Signal.
Ce qui est un tout petit peu hypocrite parce que, et je me jette la pierre la première, qui installe une appli et lit les CGU avant de l'installer, réellement.
C'est ça, les cookies.
Donc, c'est pas parce que d'un seul coup, il y a un message pour dire, au fait, on a changé les CGU, vous ne les aviez pas lus au départ de toute façon.
Bon, oui, disons qu'on sait comment fonctionnent les choses quand même parce qu'il y a des gens qui peuvent les lire et nous l'expliquer. Mais...
Parce
qu'ils t'écoutent, Patrick, mais sinon ils savent pas.
mais moi, je t'avoue que ça m'a fait un peu peur là, quand j'avais vu dans l'article le fait que le directeur il dise « Ah, mais quand ça va venir, on va s'en charger ». En gros, c'est comme les gens qui te disent « Tu sais quoi, on va créer une application, pas besoin de sécuriser. Le jour où on va se faire attaquer, où il y aura une cyberattaque, à ce moment-là, on mettra en place des choses ». Non, c'est le B.A.B.A. de la sécurité. C'est des choses qui ne sont pas négociables. Si tu vas faire une application qui est, par exemple, pour assurer une communication, même le chiffrage, même les algorithmes de chiffrage, il y a quand même de l'argent derrière. Il y a des serveurs que tu dois acheter, il y a des gens que tu dois recruter, il y a des stratégies de sécurité qui sont à définir pour s'assurer qu'on n'est pas en train de revivre la même expérience Facebook. Et moi, je trouve que ces nouvelles applications, les gens ne sont pas encore en train d'apprendre, de faire des lessons learned et s'assurer que voilà les erreurs qui ont été commises, voilà le besoin des gens en privacy. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est que les sociétés ont arrêté d'investir ou ils ont investi de moins en moins dans tout ce qui est les voitures, les IoT, et ils sont tous en train de se concentrer sur le privacy parce que depuis la pandémie, les gens se sont rendus compte que voilà, il y a un gros problème de privacy, que parce qu'on était occupé par nos activités tous les jours, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait avec nos téléphones et nos comptes et tout. Et là, ils se rendent compte que, oh purée, en fait, moi, il y a quelqu'un de l'autre côté qui sait tout de ma vie et je ne m'étais même pas rendu compte.
Ouais, sauf que là, Signal, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il protège la vie privée à un tel point que ça en devient une boîte noire dans laquelle on ne voit rien. Et ce qu'on leur demande, c'est au contraire de faire attention à ce que cette boîte noire ne soit pas mal utilisée. On ne parle plus de questions de vie privée avec Signal. La question est très bien gérée, justement, par Signal. Ils sont en open source, tout le monde peut voir le code, et ils adhèrent aux pratiques de chiffrement et de vie privée les plus strictes.
Oui.
C'est justement...
Mais Mais d'un point de vue tech, excuse-moi de te couper, il faut faire très attention parce que dans ce que tu dis, c'est comme si tu disais que Signal était complètement hermétique et qu'il n'y avait pas moyen de craquer ça. Là, je suis désolée de te contredire. Il y a beaucoup de cyberattaques et de hackers dont leur spécialité est justement de casser ces codes de chiffrement parce que tu peux chiffrer, oui, mais tu peux aussi déchiffrer. Et c'est ça la base de tout ce qui est cryptographie. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un a créé un algorithme de chiffrage, il y a quelqu'un d'autre côté qui a créé l'algorithme de déchiffrage. Donc, il faut, en fait, moi, j'essaie juste de sensibiliser au fait de dire oui, Signal est hermétique. Signal n'est pas hermétique. Signal est une application comme WhatsApp et il y a moyen de le craquer. Si quelqu'un vole ton téléphone,
bien
les données sont accessibles. Tu vois
bien
ce que
sûr, mais là où Signal est intéressant, c'est que c'est sans doute ceux qui adhèrent aux bonnes pratiques du chiffrement le plus dans tous les outils de ce type. Et là où je voulais en venir, et on va conclure là-dessus parce qu'on a déjà fait plus d'une heure sur des sujets qui voulaient une heure et quart sur des sujets qui devaient prendre 20 minutes. C'est à tous ceux qui regardent Signal et sont sensibles à cette question de peut-être qu'il faudrait faire attention à ce que ça soit pas aussi hermétique que ça l'est aujourd'hui et peut-être que ça pourrait devenir un refuge pour des gens qui pourraient dire des choses sans que personne ne puisse savoir ce dont ils parlent. Eh ben, je prendrai l'exemple qui, encore une fois, me fait revêtir mon costume d'avocat du diable, un super Hugo Boss hyper que j'ai acheté en solde hein, quand même, mais très très beau costume. Qui dira que, bah, regardez ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Non seulement, c'est le contre-exemple parfait de tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant et qui va dans le sens inverse de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un dissident qui se lève contre un gouvernement qui est de plus en plus oppressif, bien sûr Alexei Navalny, qui a été emprisonné et dont la préparation et l'équipe de réseaux sociaux a permis de lever la population contre le, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait, Navalny. Hein, quand il est rentré en Russie, il savait qu'il allait se faire arrêter. Il a préparé des vidéos en avance, etc. Et qui a permis d'amener l'information à la population par les réseaux sociaux. Et la population aujourd'hui s'organise pour manifester contre le gouvernement par milliers. Des milliers d'ailleurs se font arrêter. Et pour communiquer entre eux, rappelez-vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais le gouvernement russe a imposé aux sociétés de la tech d'avoir leurs serveurs en Russie, notamment Twitter, Facebook, etc. Alors, il y a aussi VKontakte, mais qui est russe à la base, donc ils avaient déjà leurs serveurs en Russie. Donc, le gouvernement, si les sociétés suivent ces règles, peut avoir accès aux serveurs, et on se doute bien que s'ils ont fait ça, c'est pour pouvoir savoir ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Et du coup, les gens qui veulent communiquer et s'organiser pour aller manifester, s'ils veulent le faire de manière un petit peu sécurisée, ils ont besoin d'utiliser un outil qui va être véritablement sécurisé, comme Signal, dont les métadonnées ne peuvent pas être utilisées, parce que les métadonnées, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on peut savoir quel numéro appelle quel numéro sur WhatsApp, par exemple, si on a accès à ces métadonnées, comme c'est le cas de Facebook, et si Facebook a ses serveurs en Russie, et ben peut-être que le gouvernement russe a accès à ces données aussi. Signal, personne n'y a accès. Et donc, si on a trouvé une personne qui fait partie d'un groupe de manifestants, eh ben, on peut aller voir quelle personne il a contacté de tel à tel moment sur WhatsApp. Ce n'est pas le cas sur Signal. Donc, c'est un outil qui permet à des personnes de s'organiser pour contester le pouvoir en place. Et la communication de Navalny, qui est aujourd'hui en prison, se fait entièrement par les réseaux sociaux, évidemment, et par son équipe de campagne. Donc, à la fois les réseaux sociaux qu'on critiquait à l'instant et les outils comme Signal dont on parle depuis tout à l'heure sont utiles dans des situations qu'on approuverait, je pense, dans nos pays occidentaux, là où on a passé 1h15 à les critiquer jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas quelle est la conclusion de ça. Je crois que la conclusion, c'est peut-être que chaque cas est différent et qu'il faut juger chaque cas différemment. Mais la solution, en tout cas, moi, j'en ai toujours pas, ni pour Twitter, ni pour Facebook, ni pour Signal, ni pour rien du tout. Quoi.
Donc, quand même, eux, ils n'en ont pas.
Bah, c'est ça le problème.
Moi, je dirais juste que, en fait, il faut un peu faire attention à la mésinformation et s'éduquer numériquement, vraiment. Hein. Ouais. C'est vraiment
très bonne conclusion, Zineb.
Tout à fait. Écoutez le rendez-vous tech, mettez vos enfants sur les outils fournis par Coude, tout ça, c'est idéal. Bon, voilà. Écoutez, vraiment, c'est un épisode qui est passionnant. Je pense qu'on va devoir s'arrêter à un moment parce que j'avais plein d'autres sujets dont je voulais parler. Peut-être qu'on va les évoquer très, très, très rapidement parce que ça me ferait de la peine de pas en parler du tout. Mais avant ça, je vais quand même vous rappeler. Vous savez quoi ? On va passer la promo. On va passer la promo sur Patreon. Je vais juste mentionner très rapidement, si vous voulez faire votre bonne résolution, il n'y a plus du tout de temps. C'est la promo sur Patreon se termine là à la fin du mois, dans quelques jours. Donc si vous voulez vous abonner au Patreon sur le rendez-vous pour le rendez-vous tech, bah c'est le moment pour profiter de la promo. Elle disparaît, bien sûr, vous garderez le tarif préférentiel si vous êtes abonné avant la fin du mois, mais si vous le faites pas, c'est fini. Donc j'en parle depuis des semaines et des semaines. Maintenant, c'est le moment. Il faut le faire maintenant. Mais bon, je vais évoquer rapidement quelques sujets en plus. Google a trouvé un accord avec les organismes de presse en France pour partager une partie de leurs revenus quand ils utilisent leur contenu dans Google News. Et c'est particulièrement intéressant parce que c'était un sujet qui était hyper controversé pendant des mois et des mois. Et ça arrive à un moment où, en Australie, Google a dit que si le gouvernement australien poursuivait la loi qu'ils étaient en train de voter, il devrait fermer Google tout court en Australie. Pourquoi ? Parce que le gouvernement australien a été beaucoup plus loin que la France et d'autres pays d'ailleurs en Europe qui demandent le gouvernement australien des revenus pour chaque lien que Google utilise, chaque lien, même dans le moteur de recherche. On ne parle pas que de Google News. Donc, il y a ces deux affaires qui se produisent en parallèle. Je pense que l'affaire australienne, c'est un petit peu des négociations pour essayer d'arriver à se trouver au milieu à un moment. Mais l'affaire en France, c'est intéressant parce que, vraiment, ils ont trouvé un accord pour rémunérer, et les plus grands groupes de presse ont signé cet accord. Le truc, c'est qu'on n'a pas les détails de l'accord et il y a une partie des revenus qui est comptée à partir du trafic qu'envoie Google vers les sites en question. Et là, tout à coup, tout s'explique parce qu'on ne sait pas combien. Alors peut-être que ça va quand même donner un petit peu de cash en plus du trafic, ce qui est toujours bon à prendre parce qu'une chose importante, je crois, pour la presse aujourd'hui, c'est d'avoir une diversité de sources de revenus. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à noter parce qu'ils étaient à couteau tiré pendant des mois et des années même. Finalement, ils ont trouvé un accord.
Heureusement. Et ça facilite aussi l'accès à certains articles qui sont payants. Moi, c'est ça ce que j'ai bien aimé. Et donc, apparemment, on pourrait accéder à des articles payants et les lire, j'ai envie de dire gratuitement, même si techniquement.
Ah, mais écoute, j'ai raté cette information. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Ça veut dire que peut-être que c'est... alors, encore une fois, on n'a pas les détails, mais peut-être que ça sera pour ces articles que Google rémunérera les organismes en question, enfin, les journaux en question. Ils pourront, quand c'est des articles payants, rémunérer les organismes pour l'accès, ce qui serait intéressant comme démarche.
J'espère qu'ils feront ça aussi pour les plus petits, ceux qui ne sont pas signés avec des grands organismes, surtout. Tu vois, les presses qui sont libérales et celles qui sont un peu indépendantes.
Ouais.
Ce serait top pour
Alors,
eux aussi.
C'est vrai qu'ils ont signé avec certains organismes, mais pas tous. Mais il y a quand même, je crois que c'est je me souviens plus du... Ah oui, c'est l'Alliance de la presse d'information générale. Et ça inclut aussi Le Monde, Le Figaro, je crois. Enfin, les gros, en tout
les
cas, sont inclus là-dedans. Ouais. Netflix a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui est fonctionnalité aléatoire, c'est-à-dire qu'il vous envoie une série au hasard, alors peut-être en fonction de ce que vous avez déjà vu, mais ils sont en train de l'implémenter un petit peu partout. Je trouve que ça peut prêter à sourire, mais je trouve que c'est pas si mal. Ça vous suggère des trucs et c'est un petit peu comme la télé, c'est Netflix qui revient vers la télé, mais je trouve ça pas mal. Bon, vous êtes sceptique, ok, très bien. Entre parenthèses...
Je t'avoue, moi, si Netflix, elle pouvait juste, par exemple, me donner les recommandations de gens que je follow, par exemple, si...
Ah.
Si tu vois,
ça, c'est bien, exemple, ça.
Bah, t'as vu, hein. C'est un truc d'informaticien. Tu vois, par exemple, si je te follow et toi, t'as vu des documentaires et genre, t'as mis un rating qui est 5 stars et tout, Et moi, je trouvais ça plus sympa que quelqu'un qui vienne me chauffer à droite et à gauche. Moi, je m'en fous du chauffeur.
C'est pas bête. Ouais.
Le chauffeur, c'est
la idée. Je dois faire mon échec. Vote pour.
Ouais, ouais.
À leur vendre.
Entre parenthèses,
tant que c'est recordé de ce truc, comme ça, s'ils font mon idée, moi je la récupère.
Très bien. Bon, allez, un autre sujet que je voulais évoquer aussi, c'est celui de Clubhouse, qui est un réseau social dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est un réseau social qui ouvre en fait des salles de vocal. Et donc, n'importe qui peut ouvrir une salle vocale et vous pouvez écouter ce qui s'y dit, un petit peu comme de la radio, et vous pouvez intervenir en levant la main virtuellement. Et il y a tout plein de salles différentes qui sont ouvertes. Et c'est un réseau qui est utilisé beaucoup dans la Silicon Valley et ils ont levé de l'argent. Ils sont à, je crois, 100 millions de capitalisation aujourd'hui et ils sont encore ils ont levé 100 millions à 1 milliard de capitalisation. Ils sont encore en bêta privée. J'essaye d'avoir une invitation, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un réseau social qui est intéressant. À mon avis, il y a eu un emballement qui s'est créé sur le réseau. Évidemment, il y a des problèmes de modération, vous pouvez même pas imaginer, enfin si, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner avec de la voix.
Mais, encore une fois,
je pense, moi, qu'il y a eu un emballement au niveau de Clubhouse, parce qu'il y a beaucoup de VC qui ont vu passer la caravane de TikTok et qui se sont dit, ok, il faut pas qu'on rate le prochain. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réseau social qui a réussi à bien formaliser la communication à l'oral. Et donc, peut-être que Clubhouse y arrivera. Il y a d'ailleurs une fonctionnalité équivalente qui arrive dans Twitter, qui est en cours de test, qui s'appelle Spaces, je crois. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte d'ébullition autour de ce réseau.
Moi, j'ai bien aimé le concept d'être proche des célébrités.
Ouais.
C'était cool.
Écoute,
et de discuter de différents sujets, de sauter de droite à gauche. C'est cool.
Ouais, c'est une idée qui est franchement séduisante. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais il y a déjà Twitch, il y a déjà d'autres moyens de faire ça. » Ils n'auront pas forcément tort, mais c'est vraiment la forme, le format, l'interface même qui peut moduler l'utilisation et qui peut en faire un succès ou pas. Quand Facebook est arrivé ou quand Twitter est arrivé, il était déjà possible de s'envoyer des messages ou de... Mais ce n'était pas exactement de la même manière. Donc, ça peut vraiment... jouer le format. On vous rassure, Jack Ma est bien en vie. Il a refait surface il y a quelques semaines ou quelques jours même. Donc, il est bien en vie. Hein, il s'est juste intelligemment un petit peu effacé. Et je vais le mettre dans la newsletter. C'est un article sur le subreddit Wall Street Bets qui est passionnant. C'est une affaire qui a fait exploser le cours de la bourse de GameStop, qui est une société qui vend des jeux vidéo et qui est évidemment extrêmement mal en mauvaise posture parce que les gens ne sortent plus de chez eux et n'achètent plus les jeux vidéo en physique depuis bien longtemps. Et il y a donc un subreddit qui a fait exploser le cours de la bourse en essayant de shorter l'action. Et c'est monté, ça a été multiplié, je crois, par 20 ou un truc comme ça. Allez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com, vous verrez l'article, c'est vraiment passionnant. J'ai quelques autres articles également qui seront intéressants aussi à suivre. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Il y avait quelques autres sujets que je voulais évoquer, mais on va les laisser pour peut-être une autre fois, parce que l'émission est déjà très très longue. On va faire quand même pour les Patriotes un after show où je vous parlerai de la suite de mes aventures de PC. Vous allez voir, ça va être absolument passionnant. Si vous êtes Patriotes, il s'est passé des trucs de fou avec mon nouveau PC qui avait des histoires. Ceux qui ont suivi dans le rendez-vous jeu ont su que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais pour ce qui est du rendez-vous tech, on va s'arrêter là. C'était une émission vraiment, vraiment intéressante. J'aimerais vous remercier toutes les deux très chaleureusement de votre participation et de vos avis éclairés. Avant de se quitter, si les auditeurs en veulent plus, est-ce que, on va commencer par Gaël peut-être. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
Écoute, moi, c'est toujours avec Coude. Donc, c'est coude.fr et tout ce qui va avec un Coude. Donc, sur Twitter, @coude_fr, la page Facebook sur Coude. Oui, je suis encore sur Facebook.
L'hypocrisie, madame, l'hypocrisie.
Mais je suis encore sur WhatsApp aussi. Hein. Ouais, j'avais Signal depuis longtemps, moi, depuis un peu plus longtemps que ça. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver sur Signal, mais cherchez-moi bien. Et puis tous les réseaux sociaux, dès que vous tapez Coude, COOD, vous me retrouvez. Voilà.
Et pour initier vos enfants et les éduquer à la chose technologique.
À faire la différence entre un réseau social et de la source d'information, par exemple.
Vous trouverez les outils sur Coude. Et on mettra le lien vers le compte de Gaël dans les notes de l'émission. Ça sera le cas pour Zineb aussi. Mais est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur le net, s'il te plaît, également ?
Ouais, bien sûr. Alors sur Twitter, c'est Lil Geekette, donc aussi simple que ça. Et j'ai aussi un blog où je fais tout ce qui est des critiques littéraires et j'écris des articles un peu tech. Donc c'est dacurlyamazon, donc da curly cheveux curly amazon, parce que comme tu peux le voir, je suis une combattante de l'IT.com. Et pareil pour Instagram, et j'ai gardé bien sûr Instagram sur dacurlyamazon aussi. Comme ça, tu sais. Et j'ai aussi WhatsApp. Et là, pour c'est un numéro de téléphone privé, par contre.
Écoute, on mettra le lien vers le Twitter qui, lui, est public dans les notes de l'émission. Merci beaucoup pour ta participation, Zineb.
Je te donnerai le lien du blog aussi. Il me faut des followers.
Ça marche, ça marche.
Et merci pour moi, c'est... Merci à toi, en tout cas, pour l'invitation.
Mais
et
avec
merci
plaisir.
Merci pour la conversation. Et merci à toi, Gaël. C'était vraiment un réel plaisir.
Merci Zineb. Merci Patrick.
Pour ma part, je vais quand même vous dire où vous pouvez me retrouver aussi. C'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi aller sur notepatrick.com pour les liens vers toutes les émissions. Si vous voulez d'ailleurs écouter la fin, que vous êtes patriote et que vous voulez écouter la fin de l'émission, bah, vous pouvez l'avoir sur le podcast privé dont le lien est dans votre compte Patreon. Vous pouvez en avoir les instructions. Demandez-moi, je vous les donnerai, mais je pense que la plupart d'entre vous est déjà abonné. Et justement, puisqu'on parle de Patreon, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech et profiter encore pendant quelques jours à peine de la promotion Bonne Résolution. Si vous voulez soutenir une émission que vous appréciez et que c'est votre bonne résolution, ou pas d'ailleurs, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire sur votre téléphone mobile ou sur votre navigateur web quand vous rentrez chez vous ou si vous êtes déjà chez vous, hein, c'est très simple. Et la promotion s'arrête fin du mois. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.